Il convenait que les alliés, réunis à Vienne, comprennent que la France n'était plus gouvernée par Napoléon, mais par son roi légitime, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, mémoire.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En avril 1814, ce qui restait de l'Europe napoléonienne s'effondre. L'empereur Napoléon a abdiqué le 6 avril et Louis XVIII va bientôt rentrer dans son pays. Les alliés, autrichiens, russes, britanniques, espagnols et d'autres encore, qui sont unis dans la détestation de Napoléon et dans la volonté de faire écrouler sa puissance, doivent désormais envisager de se réunir pour reconstruire une Europe. En effet, pendant plus de 20 ans, la France révolutionnaire et napoléonienne a bouleversé les frontières, les régimes. Et donc, il convient, après la chute de l'ogre corse, d'essayer de reconstruire cette Europe. La ville de Vienne est de ce point de vue-là pratique. À la fois, c'est la prestigieuse capitale des Habsbourg, mais placée au centre de l'Europe, elle permet aux représentants de toutes les puissances d'arriver des quatre coins du continent. Le congrès de Vienne débute en octobre 1814. Il conviendrait de regarder les objectifs des puissances, car en particulier les grandes puissances n'ont pas toutes les mêmes intérêts. Commençons par l'Empire d'Autriche. L'Empire d'Autriche est représenté par son empereur François Ier et par son ministre des Affaires étrangères Metternich, qui deviendra chancelier d'Empire en 1821. Elle veut à la fois l'équilibre européen, ne voulant pas qu'une seule puissance gouverne et dirige le continent à elle seule. Elle veut également s'appuyer sur l'idée de la légitimité monarchique. Il faut restaurer les régimes bousculés par la Révolution et par l'Empire napoléonien en s'appuyant sur la tradition des anciennes monarchies. Et enfin, de manière plus prosaïque, l'Autriche souhaite contrôler l'Allemagne et la péninsule italienne. De son côté, la Prusse est représentée par Frédéric Guillaume III et par son ministre des Affaires étrangères, le prince Hardenberg. Sans doute, parmi les puissances victorieuses, la Prusse est la plus anti-française. Elle avait même une ambition de démanteler la France au nord et à l'est du pays. Elle a également des ambitions en Allemagne. Elle souhaite devenir la première puissance en Allemagne, ce qui risque d'ailleurs de la porter à des oppositions vis-à-vis de l'Autriche. Et puis, elle souhaite faire disparaître de la carte de l'Europe la Pologne et donc s'emparer d'un territoire du Grand-Duché de Varsovie. La Russie est représentée par le tsar Alexandre Ier et par son ministre des Affaires étrangères, le prince Nesselrod. Le tsar Alexandre a fait le voyage. Il est venu de Saint-Pétersbourg jusqu'à Vienne, où il va résider pendant presque un an. Pour lui, il faut construire une vaste coalition européenne qui regrouperait au sein de la Sainte Alliance les puissances victorieuses de Napoléon. Il veut également établir sa domination sur une partie du Grand-Duché de Varsovie. Et puis, comme tous ses prédécesseurs, le tsar Alexandre souhaite faire de la Russie une puissance méditerranéenne qui puisse avoir accès à la mer chaude par les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Le Royaume-Uni est représenté par son secrétaire au Foreign Office, Lord Castlereagh. La Grande-Bretagne, comme c'est le cas depuis le début du XVIIIe siècle, souhaite un équilibre européen. Elle a vécu une domination française sur le continent pendant les années de Napoléon. Il faut donc retrouver un équilibre. Elle n'a aucune ambition territoriale en Europe. Par contre, en tant que puissance maritime, la Grande-Bretagne voudrait accéder à des points stratégiques pour asseoir sa domination navale et coloniale. Ainsi, elle aimerait renforcer sa présence en Méditerranée et dans l'océan Atlantique. Reste la France. Elle est représentée par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII. Sacré personnage que Talleyrand. Il a réussi à survivre à la Révolution. Il a servi le directoire comme ministre des Relations extérieures. Il a participé à l'élaboration du coup d'État de Bonaparte. Il fut son ministre jusqu'en 1807. Et puis ensuite, c'est vrai que l'empereur Napoléon lui a retiré progressivement sa confiance. Et en 1814, cet homme de toutes les saisons a participé au retour des Bourbons. C'est un homme du XVIIIe siècle qui connaît les us et les habitudes des cours d'Ancien Régime et il est très à l'aise dans les salons viennois. Quels sont ses buts? Parce qu'après tout, la France est présente, mais elle peut faire figure de vaincue de la période révolutionnaire et napoléonienne. Il veut éviter de trop grandes amputations territoriales. Il souhaite appuyer et favoriser l'équilibre européen que désirent l'Autriche et la Grande-Bretagne. Et il souhaite finalement jouer également sur les rivalités des puissances, car il a bien compris que Prussiens et Autrichiens, que Russes et Britanniques n'ont pas tous les mêmes intérêts. Qui plus est, pour asseoir la restauration des Bourbons en France, il souhaite insister sur le principe de légitimité monarchique. Finalement, ce n'est plus effectivement Napoléon qui est au pouvoir. Il ne s'agit plus de sanctionner la France napoléonienne, mais de renforcer la France de Louis XVIII. Ainsi, au milieu des repas et des concerts, les puissances vont devoir prendre leurs décisions. Que précise l'acte final du Congrès de Vienne qui est signé le 9 juin 1815 ? Concernant l'Italie, la péninsule est recoupée en 8 États. Or, si on observe bien la situation italienne, l'Autriche domine la péninsule. En effet, elle a annexé la Lombardie et la Vénétie. Donc, la vieille République de Venise ne sera pas restaurée. Milan et Venise sont désormais des villes de l'Empire d'Autriche. D'autre part, les Habsbourg de Vienne placent sur des trônes italiens des membres de leur famille. On retrouve à Parme Marie-Louise, la fille de l'empereur François et la femme de Napoléon, et à Florence, on trouve l'archiduc Ferdinand, un des petits-fils de l'empereur d'Autriche. En Allemagne, la carte a été également simplifiée. Auparavant, les États qui formaient le Saint-Empire romain germanique était au nombre de 450. La carte a été singulièrement simplifiée, même si elle reste encore complexe, puisqu'il n'y a plus que 39 États allemands, dont le plus important est sans doute la Prusse, mais la Confédération germanique, qui a été créée à ce moment-là, est présidée par l'empereur d'Autriche. Ainsi, l'Autriche a réussi aussi à conserver un droit de regard sur les affaires allemandes, quitte d'ailleurs à se heurter aux ambitions prussiennes par la suite. La Pologne a perdu toute indépendance. La Pologne avait été partagée à trois reprises en 1772, 93 et 95. Napoléon lui avait redonné une espèce de vie politique et de vie nationale avec la création du duché de Varsovie. Les Alliés décident de rayer la Pologne de la carte de l'Europe. Les deux tiers de la Pologne sont annexés par la Russie. Le reste, la Galicie, est donné à l'Autriche, la Poznanie à la Prusse. La Grande-Bretagne, comme c'était son intérêt, réussit à obtenir des bases maritimes importantes. En Méditerranée, elle prend l'île de Malte et occupe également les îles ioniennes le long des côtes de la Grèce, ce qui lui permet d'avoir un œil sur l'Empire ottoman. Beaucoup plus au sud, dans l'Atlantique, elle met la main sur le Cap, en Afrique du Sud, qui devient ainsi une base pour la marine britannique qui contrôle un des axes vers l'Empire des Indes. Quant à la France, finalement, la vaincue de 1814 réussit à sauver l'essentiel. Elle retrouve ses frontières de 1792, c'est-à-dire d'avant les guerres révolutionnaires et impériales, et elle s'agrandit même d'Avignon et du comtat vénitien. L'idée, effectivement, que la légitimité était de retour à Paris en la personne de Louis XVIII, a fait que la France n'a pas été démantelée comme l'aurait, semble-t-il, souhaité la diplomatie prussienne au début du Congrès. Reste à savoir aussi comment faire appliquer l'ordre de Vienne. Le traité de la Sainte Alliance a été signé le 26 septembre 1815. Mais finalement, c'est un traité qui est surtout fait de bonnes intentions où les princes chrétiens de l'Europe se promettent une mutuelle assistance. Plus concret est le traité de la Quadruple Alliance du 20 novembre 1815. Ce traité prévoit des congrès annuels où les grandes puissances se regrouperaient régulièrement pour observer la situation européenne et éventuellement intervenir pour maintenir l'ordre décidé à Vienne. Ainsi, en 1818, les alliés se réunissent à Aix-la-Chapelle, puis à Karlsbad en 1819, à Troppau en 1820, à Laibach en 1821, à Vérone en 1822. Au cours de ces réunions, les grandes puissances décident d'intervenir dans les zones d'Europe où couve le danger révolutionnaire. Ainsi, en 1821, on demande à l'Autriche d'envoyer des troupes à Turin et à Naples pour mater les insurrections qui ont été organisées par des patriotes italiens. Ainsi aussi, en 1823, la France a pu intervenir en Espagne pour rétablir l'ordre monarchique du roi Ferdinand VII. Ainsi, cet ordre de Vienne, qui a été par la suite fort contesté, a permis finalement, sous la tutelle des grandes puissances, à peu près une quarantaine d'années de paix. Et cet ordre de Vienne a finalement tenu jusqu'en 1848 et jusqu'au printemps des peuples qui a balayé le continent.